Son des Lilles. Le Centre international d'art et du paysage propose chaque année plusieurs expositions. Désormais, elles s'exposent aussi sur les ondes de votre radio avec un programme en trois temps intitulé Son des Lilles. Le mix musical, les capsules sonores et la sélection de livres des artistes à découvrir à la librairie du Centre d'art. Tout de suite, sur Radio Vassivière, La Sagesse des Lianes, capsule sonore. La Sagesse des Lianes est une exposition imaginée par Denethem Twambona, un multivers composé de créations d'une vingtaine d'artistes autour des pratiques d'alliance et de résistance, à découvrir jusqu'au 30 janvier 2022.
Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de partager avec vous cette émission dédiée à la sagesse des lianes. Je suis Nini Villegas et je vous invite à suivre ce voyage initiatique autour du lianage et des pratiques d'alliance et d'improvisation, réactivant les mémoires et puissances des réexistences des mondes afro-diasporiques. Une carte blanche a été donnée à Denethem Twambona, chercheur, philosophe et dramaturge à l'identité frontalière. La Sagesse des Lianes est une exposition présentée au CIAP, Centre international d'art et du paysage de l'île des Vassivières, prolongée jusqu'au 30 janvier 2022. La Sagesse des Lianes est aussi une édition, la cosmopoétique du refuge, parue aux éditions post-édition. Je vous propose cette découverte du lien cosmopoétique avec un lianage au combat de la liane sur un croisement radiophonique et sensible entre Mariemta du projet Afrotopique, les CIEP, avec Marine Frolinger et nous, Radio Vassivière, dans le cadre des Sons des Lilles. La Sagesse des Lianes nous parle du lianage, un terme créole employé afin de désigner les croisements des matières innovantes qui vont donner naissance à l'enchevêtrement d'une cosmopoétique puissante et d'un échange politico-créateur d'un arrachement du sol.
Une exposition collective, plutôt centrée sur les mondes de ce qu'on appelle les diasporas africaines, les mondes afro-diasporiques, les mondes qui sont liés à des circulations qui ont lieu sur plusieurs siècles.
Denethem Twambona, chercheur, philosophe et dramaturge.
Des circulations qui ont été liées en fait à la traite négrière, et donc à l'esclavage atlantique et aussi à celui qui a été mis en place dans l'océan Indien, et qui, au-delà de la violence, au-delà de la déshumanisation, ont abouti quand même aussi en même temps à une dissémination, en fait, quelque part, à une expansion en fait, des cultures africaines. On peut présenter aussi des choses comme ça à des formes de créolisation, ce que Édouard Glissant appelle des créolisations, c'est-à-dire... quand il parle de créolisation, il se réfère en fait à la langue créole qui est née en fait de la rencontre entre le français, enfin des façons de parler de l'ouest de la France en particulier, et des langues africaines, qu'elles soient bantoues ou du golfe de Guinée. Et donc c'est cette intrication, c'est cette rencontre de peuples entre peuples amérindiens, africains, européens, de savoir-faire multiples aussi, qui produit des cultures inédites, des mondes inédits qu'on appelle les mondes créoles. Voilà, donc j'ai remarqué que sur le plateau, en fait, il y avait une certaine absence, en fait, de ces mondes-là. On parle beaucoup du Mexique, de Zapata, du zapatisme, mais en oubliant parfois les richesses aussi en termes d'alternatives, d'expériences que recèlent les territoires ultramarins sous souveraineté française, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, etc. Et aussi même dans les territoires sous hégémonie française, parce que la France est toujours présente dans ce qu'on appelle la France-Afrique, les territoires d'Afrique francophone, en fait. Et d'ailleurs, il y a aussi une part de la population française dont je fais partie, qui est liée, en fait, à ces territoires. Et donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas pris en compte, que ce soit dans ce que l'on crée ou dans ce que l'on a traversé. Et donc, il s'agissait aussi de mettre en lumière cette histoire, ces résistances et cette créativité. Nani nani, 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 nani nani. Nani nane, nani nane, nani nane, nani nane, nani nane, nani nane. Éventuellement des alliances sur certaines questions, qu'elles soient écologiques ou politiques. Voilà.
Des thèmes pour comprendre un peu les contextes. Est-ce que tu peux nous parler comment ça se tisse les liens entre toi et ces territoires? Comment tu te retrouves ici, sur l'île des Vassivières, dans ces territoires, les Limousins, à présenter la sagesse des lianes et à créer ces lianages un peu partout dans le monde, on peut dire?
Ça a commencé, en fait, de façon assez simple. J'ai été invité à une résidence de création et d'implication avec le MAS, Montagne Accueil Solidarité, en novembre 2017. Et à cette occasion, j'ai participé à peine arrivé à la journée des migrants, où j'ai fait une intervention où je mêlais textes et projections de vidéos et de musique. Et il y avait Marianne Lanavert qui était présente, ainsi que Guillaume Baudin. À la suite de cette intervention, Marianne Lanavert, c'était l'ancienne directrice du Centre d'art et du paysage de Vassivière, et Guillaume Baudin, c'est le coordinateur artistique. Et donc, ils ont été plutôt séduits par ma façon de faire, parce que je déployais, en fait. Et quelques temps après, Marianne m'a proposé une carte blanche au Centre d'art de Vassivière. Voilà, alors que je ne suis pas du tout du monde de l'art contemporain, je postulais pas du tout là, enfin c'est pas du tout mon univers, quoi, mais donc j'ai pas dit oui tout de suite, j'ai réfléchi un certain temps et je me suis dit oui, que c'était l'occasion peut-être justement de déplacer les choses, puisque je suis pas de cet univers et que je suis lié à des mondes qui n'ont pas souvent droit de cité dans l'univers de l'art contemporain en France. Enfin, ça commence à peine, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça, et c'est ainsi que j'ai commencé à contacter des artistes, à les rencontrer et à concevoir ce projet Sagesse des Lianes autour de la figure de la liane, quoi. Te anab sagaini la djen baba, la men bon pe kalite komba Daniel. Momo morel imelda, la men bon pe kalite komba Daniel. Momo morel imelda, la men bon pe kalite komba Daniel. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Fugitif ou courtu » et qui est consacré, c'est un essai philosophique et littéraire consacré au marronnage. Donc le marronnage, c'est les processus de fuite, tous les processus de résistance furtive, résistance discrète et créatrice, tous les arts de l'esquive qu'ont développé les esclavisés, en fait. Les gens réduits, les Africains et descendants d'Africains réduits en esclavage, que ce soit dans les Amériques ou l'océan Indien. Donc ça pouvait passer par le sabotage, par ce qu'on appelle suicide, mais qui ne sont pas des suicides, c'est une façon de retourner au pays des ancêtres. Ça pouvait passer par l'empoisonnement des maîtres ou des bêtes. Ça pouvait passer également par des fuites ponctuelles ou définitives, en disparaissant dans l'anonymat des grands ports, ou par la création, à travers des fuites collectives, de nouvelles communautés en fait, libres dans la forêt ou dans les montagnes, dans les marais, dans les zones reculées, ce qu'on appelle des communautés marronnes en fait. Donc, et ça passe aussi par la création de langues un peu chiffrées, comme les créoles ou les negro speech, par aussi des créations musicales, rituelles, comme le candomblé, la santeria, le vaudou. La création de... En fait, c'est des résistances qui sont d'abord créatrices. Une façon, on peut parler de mouvement de réexistence, en fait.
Carole Chausset-Ayun, artiste plasticienne.
J'ai grandi très près des forêts, tout près des forêts, et aussi un peu à Paris, mais j'étais très très souvent en forêt, avec les chevaux aussi, j'ai grandi très près des chevaux. J'ai grandi en pleine nature, et en pleine contemplation aussi. Voilà, et ça, j'étais étonnée que les gens ne soient pas tous en pleine contemplation, tellement je m'émerveillais de la nature. Voilà. J'avais l'impression que les gens étaient habitués, qu'ils avaient l'impression d'être... Enfin, qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient le monde comme s'il était en plastique. Et... voilà, c'est ce qui m'a marqué quand j'étais enfant. Un petit peu, plein de choses en fait. Hein. Mais voilà, donc j'ai très vite commencé à dessiner la nature, à la photographier, à ramener des trésors de la forêt, à m'en servir. J'ai toujours été inspirée par les mouvements du vivant, les structures du vivant. Voilà, et ça m'a fait développer pas mal de projets. Voilà.
Qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère, oh, qu'il est où là quand il voit où les misères.
Ouais, j'avais envie de vivre la voix comme une matière à sculpter. Donc, et j'avais envie aussi de développer ce qu'il me fallait pour mes performances et un état dans lequel je pouvais vraiment être dans l'énergie et du coup dans un mouvement presque invisible, cran par cran, complètement voilà, détaché. Et j'ai commencé à travailler la voix seule, dans des pièces avec énormément d'écho, et à vraiment la faire se déplacer partout, dans tous les canaux du corps, de voir les modulations, les couleurs, et comment ça me mettait en vibration complètement. Et puis tout ce travail m'a fait partir sur des improvisations qui ont emballé des amis qui ont beaucoup plu aussi aux profs des beaux-arts, puisqu'à ce moment-là, j'étais là-bas. Et puis du coup, il y a eu des dynamiques collectives, et c'était très, très intense à vivre. Et voilà. J'ai rencontré Samuel, le père de mes enfants, et mon amoureux, qui à l'époque faisait des personnages en nature, des petits rastas avec des pommes de pin, des petites noix. Il faisait ça en animation avec les enfants. Il faisait ça aussi pour lui, parce que c'était bien sympa cet univers de petits corrigants, à dire. Donc du coup, de là, de ces petits mondes-là, j'ai eu moi des rêves de voir vraiment des êtres comme toi et moi, qui sortent vraiment des arbres, de la terre, de la forêt, et qui vont vers l'homme, lui tendre une main, lui essayer de lui faire un appel, lui faire coucou et de lui montrer, de créer du lien avec les hommes, entre eux, l'homme et donc tous les autres êtres vivants qui sont énormément présents dans la forêt et pleine de vie.
Où la foutre fait dans le cœur, la haine dans mon fond de cœur. Où la paix, le cœur rempli, puis capable de causer, crier, bouser, le corps alargué, la tête hors de sommeil pour saper un fédéral. Le cœur s'abouquait d'un tout ossement, baisement et graine comme ça plie. Rode pour saper si bateau, fin la glucose dans l'eau, à force, la paix à donner, sans pile la douleur. Rasse le corps, rasse l'esprit. Ça n'a pas de monde, ça. Ça le chien, mais il sort pas dans le train. Mazine puis la nuit, rôde sommeil pour saper. Foutor, fais le cadeau. Le corps est cadavre vivant, la tête en pire.
À partir de là que j'envisage ce qu'on appelle écologie. Je ne parle pas d'écologie parce que pour moi, justement, chez les subalternes et les colonisés en particulier, l'écologie n'est pas dissociable du mouvement même de réexistence. C'est-à-dire quand on est réduit en esclavage sur une plantation, où la plantation c'est la monoculture, on ne produit que des clones de canne à sucre ou que de l'indigo ou du café, des bananes, etc. Enfin, c'est la matrice de la monoculture industrielle. Le fait même d'arracher un lopin de terre au maître et développer une polyculture, c'est-à-dire une assemblée de plantes, comme une assemblée de plantes diverses qui sont la transposition en même temps de vision du monde, puisque il y a des plantes qui sont en quelque sorte sacrées, des plantes qui sont faites pour soigner, il y a des plantes qui sont faites aussi par rapport pour protéger. Par rapport aux esprits, il y a des arbres fruitiers, enfin tout est mélangé en fait. On recrée un univers, on recrée, enfin c'est déjà une pratique de contre-plantation, puisque qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui dans les Antilles. Hein. L'écologie, elle est pas dissociable des autres dimensions de l'existence. C'est pour ça que pour moi, la différence d'auteurs comme Malcolm Ferdinand, pour moi la notion d'écologie décoloniale n'a pas trop de sens en fait. Une écologie décoloniale qui serait conséquente devrait viser à sa propre abolition justement. On ne peut pas réformer pour moi l'écologie, enfin bon, je suis un peu provocateur, mais la meilleure façon, enfin ce à quoi il faut aspirer, c'est qu'à nouveau en fait, l'écologie fasse partie de notre pratique au quotidien, que ce ne soit pas un discours, une théorie ou une ingénierie en dehors de notre existence en fait.
Il arrive dans moins baba, là où j'en sais là-bas. Malo, 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 ya. Malo, malo. Malo maloya,
malo malo, malo maloya, malo malo, malo maloya,
malo malo, malo maloya, malo malo, malo maloya,
malo malo, malo maloya, malo malo, malo maloya.
Ça depuis longtemps mounoir, tu rates fait son maléa. Sans l'arrivée d'ordi, tirote son bonnet. Ça depuis longtemps, mon noir, tirote son maléant.
C'est pour ça que, par exemple, David Kopenawa dit l'écologie, c'est nous, en fait. Le grand chaman amazonien qui a écrit avec Bruce Albert La chute du ciel. Et il explique que les paroles d'écologie existent depuis longtemps, même si eux n'utilisent pas le terme écologie, et que c'est eux la forêt, en fait. C'est eux, avec les autres, avec les plantes, avec les êtres du rêve, avec les animaux, les rivières, qui constituent l'écologie.
Son histoire, ouais, musique, moi, dis mon noir, là, pour donner des droits au pouvoir. Dis-nous de maloya, mon noir, pour se battre pour son histoire. Ouais, musique, moi, dis mon noir, là, pour donner des droits au pouvoir.
Dénée, t'aimes-toi un bonheur pour tisser ces lianages. Cette sagesse des liens, tu as invité à des artistes et chaque artiste a proposé une variation autour du sujet, les lianages, et avec des pratiques d'alliance et d'improvisation qui allaient réactiver les mémoires et puissance des réexistences. On a déjà évoqué cette notion des réexistences et des mondes afro-diasporiques. Comment tu as choisi chaque personne au collectif pour venir intervenir lors de cette proposition ?
Je vais peut-être d'abord revenir déjà sur le titre, en fait, parce que c'est important. Oui, quand le titre, c'est « Sagesse des lianes », mais il ne s'agit pas pour moi, enfin, je l'explique déjà ailleurs, y compris dans mon livre. Et oui, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Sagesse des lianes » aussi, qui fournit aussi un éclairage à l'exposition. Il ne s'agit pas de s'extasier, de célébrer les vertus, les propriétés d'une plante, en fait. C'est pas, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce n'est pas ça l'objet, en fait. Bien sûr que les propriétés des lianes sont fascinantes, mais ce n'est pas ça le centre du projet. Il s'agit d'arracher quelque part la liane des mains de Tarzan, en fait. La semaine dernière, pour vous donner un exemple, il y a une classe de 6e qui est venue visiter l'expo, que j'ai accompagnée, et j'ai demandé aux enfants, justement, qu'est-ce que ça leur évoquait, quelle représentation, quelles images ils avaient quand on disait liane, enfin, avec le mot liane. Et tout de suite, les premières réponses étaient la jungle, Tarzan, tout de suite. Voilà. Et après, ils allaient faire un parcours d'acrobranche, d'ailleurs. Et je vous mets au défi de trouver un parcours d'acrobranche en France où il n'y ait pas le saut de Tarzan, où il n'y ait pas la liane de Tarzan, où il n'y ait pas cet imaginaire profondément colonial et raciste. J'insiste sur Tarzan parce que c'est une figure c'est la figure qui met le mieux en lumière la complicité entre l'écologie mainstream en tout cas, et l'impérialisme, et une certaine colonialité, en fait.
Myriam Mindou, artiste nomade, multitâche.
Myriam Mindou, artiste plasticienne, on va dire multimédia. Multitâche, j'aime bien, ça me plaît assez. Voilà, voilà, je pratique la performance, certaines fois de la vidéo, donc j'ai besoin d'images, photographe aussi. Et puis sculpteur dans l'âme, on va dire, j'adore, j'aime beaucoup la sculpture, c'est vraiment ce qui me représente un peu le plus, oui. J'ai besoin de m'exprimer avec mes mains. Et puis, je suis performeuse également. Denitem, en fait, on s'est rencontrés il y a quand même pas mal de temps maintenant. Ça a fait l'objet de rencontres, de discussions. Et puis, quand il a commencé, il est quand même assez souvent à La Réunion. Moi, j'ai vécu 8 ans sur l'île de La Réunion, donc j'ai une affinité aussi avec ce territoire. Et quand il a commencé à mettre en place le projet La Sagesse des Lianes et qu'il m'en a parlé... Non pas que je me sois sentie concernée, mais par affinité, je me disais que c'était à point nommé, que ça arrivait à un bon moment, en fait, que de se poser cette question-là, d'une liane, d'une arborescence, d'une histoire, et puis d'une histoire aussi du refuge, de la résistance, sans que ce soit de la résistance, mais comment trouver des moyens de survie pour pouvoir préserver son honneur et son identité. Moi, j'aime bien cette idée-là.
Dit sa feuille sans ça, la rosée prend pas dessus. Mais dit sa feuille sans ça, la rosée prend pas dessus. Il obligé dans la gare, cap des Silly, avec un ventre vide, sans même un petit gazon de riz. Dit sonne la case rissard, rend un bout de pain sec, bonne la bien jolie, mais comme de pain il est sec.
Allez, fila oula. Madame la sortie.
Ôté sa feuille sans ça.
La rosée prend pas dessus.
Midi sa feuille sans ça.
La rosée prend pas dessus.
Ôté sa feuille. Alors c'est vrai que moi je suis quand même assez souvent en itinérance, mais depuis toujours en fait. Hein. On commence quand on est petite, hein, l'itinérance. Donc pour moi l'itinérance est un mouvement qui me permet de me stabiliser.
puisque je considère que je suis citoyenne du monde. C'est pour ça que la situation actuelle qui va peut-être nous entraîner à nous déplacer pour moi est un mouvement naturel. Je l'intègre comme un mouvement naturel. L'humain a toujours été nomade. Donc la sédentarité n'est pas tant que ça naturelle. La question des lieux, des territoires, des corps, des historicités. La psyché aussi c'est important, la question des traumatismes, des imaginaires collectifs. Et puis j'aborde aussi des thématiques comme la trans, transvoir, transperformance, transécouter. Comment se passe en fait la question de l'entendre, du voir, du comprendre dans le corps. Et au fur et à mesure, en fait, je viens un peu détricoter et retirer un peu tous les éléments de traumatisme qui permettent au corps de pouvoir entendre comme il le souhaiterait, sans pour autant être impacté par une impossibilité. Donc mon travail vient un peu à chaque fois comme une cure, parce que moi-même j'ai dû passer par tout un système, tout un processus artistique pour me soigner aussi, pour m'apprendre à entendre, à voir, parce que j'ai vécu quand même dans des pays... pas de dictature, mais quand même assez violent, qui m'ont traumatisée. Et donc, ça m'a rapprochée, en fait, voilà, de peuples qui auraient vécu aussi des situations complexes. Et puis après, quand je suis arrivée à La Réunion, les déplacements des corps, ce que ça induit d'amnésie, voilà, ça me touche profondément et directement. Je veux dire, je n'intellectualise même pas. C'est une relation immédiate comme ça qui me donne envie d'aller voir et d'aller peut-être interroger. C'est vrai que l'été avant, je suis venue dans la région, j'ai sillonné un peu la région parce que j'avais besoin de, un peu comme un oiseau, de survoler un peu ce qui se passait autour. Et puis quand je suis arrivée à Vassivière, c'était une forme de mini-résidence de quelques jours. J'ai fait le tour du lac, je me suis beaucoup promenée, j'ai pris énormément de photos, j'ai traversé la forêt, j'avais besoin de ressentir en immersion en fait l'énergie du territoire. Et puis y avait pas mal de percées de lumière, il y avait comme ça des... C'était un endroit calme, limpide, et en même temps un hors-champ, c'est-à-dire que c'est une île, et tu sens bien que tu es dans un espace qui est hors quelque chose. Et ce hors quelque chose te renvoie à quantité d'autres espaces dans le monde, en fait. Tu peux être ici, mais ici, tu pourrais être partout ailleurs. Et moi, j'aime bien cette idée de l'île, justement, du sentiment insulaire, qui est un territoire, mais un territoire tout à fait insolite, un territoire que l'on ne pourrait pas baptiser, on ne pourrait pas lui donner de nom. C'est un bout de terre, en quelque sorte. Et ce bout de terre fait que tu parviens à prendre de la distance dans la pensée, dans la manière de l'envisager, et il te ramène au monde, en fait, tout simplement. Il te permet de t'horizonner sur d'autres espaces. Voilà, ça c'est vraiment le point particulier pour moi de Vassivière.
Laurence Boyer, compagnie Armayad, chorégraphe.
Florence Boyer, chorégraphe, danseuse et aussi chercheuse en anthropologie. J'ai été sollicitée donc, par Dinetem Twambona pour participer à cette Sagesse des Lianes suite à notre rencontre lors du Festival Corpus Africana à Toulouse en 2018. Où nous avons réalisé que nous avons beaucoup de points en commun sur nos centres d'intérêt autour des esprits de la forêt, de cette sagesse des plantes, des lianes, du végétal, puisque je danse donc effectivement dans les arbres. Et donc c'est une pièce qui lui avait particulièrement parlé. J'ai aussi évoqué mon travail autour de la danse maloya, mon travail anthropologique, ce travail de recherche que j'avais fait sur cet héritage des esclavagisés à La Réunion, et dont je développe une version contemporaine, un maloya un peu disloqué. Voilà, et du coup, donc, ce sont effectivement des thématiques qui résonnent avec ce que fait Denetem Twambona. Et j'ai donc été invitée sur plusieurs escales, je dirais, de la sagesse des lianes en 2019, 2020 et puis là 2021. Voilà, donc on a participé avec Barbara Glosevski à Corps Utopique au Centre d'Art de Vassivière, plus exactement au château de l'île de Vassivière. On était en résidence. Et là, j'ai parlé un peu de ce triptyque autour des expressions, je dirais, créoles, qui dessinent un imaginaire particulier à travers donc Charoy qui évoque l'héritage du service cabaret où la danse et la musique maloya ont été perpétuées dans les cercles intimistes familiaux, où l'utilisation de la farine permet de redonner visibilité aux traces des invisibles, des ancêtres, des gramoun, de tout ça. Ravaz, donc 6 heures le soir, qui fait suite à Charoy, puisque dans le service cabaret, donc dans ce rituel qui est équivalent au candomblé brésilien, les offrandes sont suspendues dans les arbres pour les ancêtres qui n'auraient pas pu venir se restaurer lors de ce rituel. Et donc, nous, corps humains, corps spectre, on est suspendu dans les arbres et on est ces corps, ces offrandes. Le corps se fait offrande dans la danse maloya pour incarner l'ancêtre. Et donc, je parle donc de cette forme cinétique de l'ancêtre qui réapparaît à travers la danse de l'élu qui a été choisi pour incarner la danse de cet ancêtre.
Batavé, les stylos, gangue zingue, dans mon coco, gangue zingue, dans mon coco, mon gosier sait.
Offrandes sont suspendues dans les arbres à 6 heures le soir. Et donc j'ai ce jeu de mots entre ravaz et les ravages, qui sont les en France on dirait les amuse-bouches, les amuse-gueules, quelque chose pour ravager la bouche, qui désigne donc ces offrandes, ces mets, cette nourriture offerte aux ancêtres. Et les corps sont aussi les offrandes. Et donc ces corps sont suspendus pour incarner l'esprit de ceux qui habitent ces arbres. Parce que dans l'imaginaire réunionnais, en tout cas quand je dis imaginaire, c'est ce qui peuple, nous, notre imaginaire qui fait qu'on est réunionnaux, réunionnais, avec cet héritage bantou, malgache, de la zone océan Indien. Et je sais maintenant qu'il n'y a pas que dans cette île qu'on évoque cet héritage-là, mais que ça c'est présent dans le monde entier. Puisqu'il y a cette idée des esprits qui habitent les arbres. On dit d'ailleurs aujourd'hui, hein, ces arbres sont vivants, il y a ces énergies qui circulent. Et donc, nous sommes à la fois spectre, c'est une métamorphose entre spectre, dame blanche qui flotte dans les arbres, aussi un héritage de mon enfance, où plusieurs faits historiques sont relatés par diverses personnes, où des dames blanches sans pieds peuvent flotter dans les arbres, qui sont plus souvent des âmes bienveillantes qui veulent prévenir d'un danger potentiel des enfants trop proches d'un ravin, et voilà, qui apparaissent comme ça dans les arbres. Donc c'est tout ça qui a bercé mon enfance et qui ressurgit aujourd'hui dans mes créations. Donc voilà, et on dit donc Marmaille 6 heures, reste pas sous pied de bois. Et donc je prends le contre-pied et une manière peut-être de se réconcilier avec ces histoires et ces manières d'être en relation avec le monde, avec le végétal, où, parce que c'est à cette heure-là que les esprits des arbres se manifestent, c'est l'esprit des ancêtres qui habitent les arbres. Et je propose moi plutôt de dialoguer avec eux et de leur laisser un temps d'expression, voilà, à travers nos corps.
Calme, basse mon tête, liane là-bas en haut, gangue zingue, dan fi là-haut. Gengé zengé, nyang filao. Malga sinare, kumban bibi, 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 leo. Viens dans mon cœur, na ce qu'il faut. Viens dans mon cœur, na ce.
En fait, quand Denetem Twambona m'a invité à repérer dans ces espaces les lieux où je pourrais potentiellement faire une performance, les deux chaînes au milieu de cette prairie en contrebas donc, du centre d'art s'étaient présentées d'office. Donc ça fait déjà quasiment 2 ans et demi, 3 ans qu'ils avaient déjà été repérés. J'avais aussi pensé aux deux chênes qu'il y avait juste devant le château, avec la vue sur le lac aussi. Et puis il se trouve que l'un des arbres était malade. Et donc voilà, je me suis recentrée effectivement sur ces deux premiers chênes que j'avais identifiés. Et comment je les choisis, de par leur envergure, la manière dont ils se déploient dans l'espace, s'il y a suffisamment de branches épaisse, solide, qui se déploie à l'horizontale, avec plusieurs étages pour pouvoir décliner la chorégraphie. Et puis je me dirais que oui, je dis que je me laisse appeler aussi par l'arbre, parce que voilà, j'aime à croire que c'est l'arbre qui me choisit en fait, voilà, qui m'appelle, qui me dit voilà, on a besoin, on aimerait nous que tu donnes ce spectacle-là, voilà, ça me plaît en fait d'instaurer ce dialogue avec les arbres. Donc je me laisse appeler, je dirais. Et de toute façon, ça s'est confirmé, puisque les deux autres arbres, voilà, il y en a un qui a été abattu parce que malade. Donc ça confirme. Ça confirme comme ça le choix des arbres. Cette pièce a été créée en 2013 et elle était dansée, donc c'est un quatuor pour 3 danseuses et un arbre. Et selon la taille des arbres et selon les dispositifs, on est soit 3, soit 2 interprètes, habituellement avec Bérangère Roussel, qui n'était pas disponible ce jour-là, puisqu'elle dansait dans une autre compagnie. Et donc Bérangère m'a donc envoyé une autre interprète, qui s'appelle Johanna Reboledo, et qui est vénézuélienne. Voilà, et donc on sait que c'est une danseuse aussi aérienne. Je fais confiance à qui m'est envoyée par Bérangère, puisqu'elle connaît bien le milieu, elle est danseuse contemporaine et danseuse aérienne. Donc voilà, donc j'ai rencontré Johanna 2 jours avant, pour permettre un temps de répétition dans les arbres, lui déployer la manière dont j'appréhende le mouvement à travers les branches, à travers les arbres, comment prendre soin des branches justement que l'on va côtoyer pendant ces jours de répétition, et enfin dialoguer avec elle le jour du spectacle. On a eu donc la veille un temps magnifique, un ciel bleu avec un super soleil, une très très belle lumière. Et pour nous, le spectacle s'est fait à ce moment-là. Et donc en plus, ça a pu être filmé avec les photos. Donc il y a vraiment eu le contexte idéal pour cette représentation. Et ça faisait quand même 2 ans et demi, voire 3 ans que j'attendais ce moment d'inauguration. Donc pour moi, à part les orages, rien n'aurait pu m'arrêter. On aurait joué de toute façon, puisqu'on est en sécurité, on est avec des cordes et baudriers, tout est parfaitement installé, méticuleusement accroché, en sécurité, avec des rappels sur plusieurs branches. À partir de là, voilà, on allait de toute façon danser la pièce. C'est vrai qu'on s'était demandé si on a beau temps une heure avant l'heure prévue de spectacle, peut-être qu'on allait danser avant, et puis le public étant prévenu pour cet horaire à 6 heures le soir, donc finalement on n'a pas dérogé à cette règle, on a bien joué Ravaz 6 heures le soir à 6 heures le soir. Effectivement, sous la pluie, et puis ça s'était jamais passé, donc j'avais confiance en fait qu'il fasse beau temps. Et puis non, on a été lavés. On a été lavés par cette pluie, le public est resté, une partie est rentrée, une partie est restée. Et ça forcément, ça nous a aussi mis du baume au cœur parce que le public était là et il voulait assister à ce dialogue avec le végétal, avec les autres artistes aussi, puisqu'il y a vraiment eu ces moments de rencontre en amont, le temps des installations, de nos répétitions. Ils sont venus nous voir, on a échangé. Enfin voilà, c'était un moment terminé avec ce spectacle en apothéose. Comme dit Dem Tombona, c'était important pour nous. C'était important pour moi parce que ça faisait 2 ans et demi que je travaillais sur cette possibilité-là, de laisser ces traces sur l'île.
Cette sagesse d'Eliane, cette exposition qui a lieu à ce moment au CIAP, au Centre international d'art et du paysage sur l'île des Vassivières, qui aura lieu jusqu'au janvier 2022. Nous parlons aussi des beaucoup d'artistes un peu de partout qui sont venus voilà, s'égreffer, se joindre à cet lianage. Parmi ces artistes, on a Carole Chausset Ayoun. C'est une fille du territoire qui travaille avec les arbres. Comment ça a été cette rencontre avec voilà, cette personne et avec cette sensibilité aussi que vous partagez auprès de la forêt.
Alors Carole, du coup, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, effectivement, sur le plateau, parce que j'ai assisté à ce carnaval sauvage de Faux-la-Montagne qui se fait chaque 2 novembre, qui est au passage le jour de mon anniversaire, donc c'est un moment assez particulier, où on célèbre les morts, comme au Mexique, et où moi j'ai toujours célébré ma naissance et ce dialogue avec les morts. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu donc le défilé de Carole Chausset avec ses écorcés, et j'ai acheté immédiatement les photos qu'elle avait réalisées de ses œuvres. Et Deneta m'a aussi pris son contact et il nous a ainsi mis en contact pour voir comment on pourrait travailler ensemble à l'avenir. Et effectivement, donc on a échangé, on s'est appelé, et évidemment on a ce point en commun autour de cette sensibilité au végétal, aux arbres plus particulièrement. Et du coup, je l'ai sollicité pour réaliser les costumes d'une prochaine pièce qui, pour l'instant, est un peu en stand-by parce qu'il y a eu Avec le Covid, on a deux pièces qui n'ont pas beaucoup tourné, donc on se concentre là-dessus. Et donc la nouvelle création, eh ben, ça prendra un peu plus de temps pour sortir. Et du coup, Carole Chausset a quand même déjà commencé à travailler sur les costumes. Et on a fait cette première résidence ensemble à Moutier-d'Ahun, dans une crèche où j'ai pu tester certains de ces costumes végétaux qui ont déjà été réalisés et ceux qu'elle a réalisés pour ma prochaine pièce. Et voilà, voir comment ça se met en mouvement, comment ça bouge plus ou moins, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter.
Les deux premières installations, j'avais envie que ça sorte, qu'ils puissent sortir du sol de la forêt, vraiment tout nu. Je rêvais de ça. Ensuite, pour la pirate, j'avais vraiment envie qu'elle puisse sortir des murs, mais en forêt, je peux l'installer partout, sur des souches. Je peux faire des photos très, très, très étranges de femmes de la forêt. Voilà. Le Salem, lui, peut s'installer partout avec ses jambes lianes aussi dans la forêt. Voilà, je parlais du Salem qui est un projet pour, dans l'idée, en suspension, arriver dans la lumière de la nef du ciel. Puis finalement, il s'est passé autre chose avec la ravine de Florence Félix. Donc, comment j'ai rêvé la première Siam Warbre ? En fait, les Siam Warbre, cette série que j'ai commencée... Elle m'est venue en me baladant dans les forêts creusoises, en observant les êtres d'ici qui sont sublimes et qui s'entremêlent, qui fusionnent, qui défusionnent, qui s'embrassent, qui repartent, qui s'épanouissent. J'ai eu envie de créer un écorcé qui soit à l'image des êtres de nos forêts, qui se démultiplient, qui s'embrassent, qui fusionnent, qui s'épanouissent vers la lumière. Et donc voilà, je suis en train de travailler sur la deuxième là en ce moment. Et la première est exposée. Je la voulais très simple, je la voulais atemporelle. Et voilà, elle a une grande robe de croûte d'écorce, de bâton d'écorce de bouleau. Là, on a des échasses de mains, on va dire, des échasses de pieds, des échasses de mains. On a quatre points d'appui pour essayer de garder un mouvement très, 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 très lent, avec vraiment des temps. Enfin, voilà, créer un autre monde à travers ce rythme-là, qui est vraiment celui du caméléon.
Et j'adore ce que tu nous partages par rapport au ton. Et cela m'a fait penser à une phrase de Georges Bataille qui disait que les moments décisifs, les tons souverains, ce n'est pas les tons, mais sa fragmentation en fraction d'infini. Donc c'est quelque chose que je ressens dans ton récit, c'est qu'il y a une espèce de fragmentation de l'infini, de ces mouvements tellement doux et tellement immobiles, mais en même temps cathartiques, qui restent dans cet espèce de langage de la forêt.
Ouais, c'est le temps de l'existence pure, on se recentre, on se pose vraiment dans... C'est vraiment ça, c'est une fragmentation de l'instant. C'est un peu comme loin de tout, près du tout. C'est un peu ça, là, on va être dans, dans ce que tu viens de dire, c'est bien expliqué dans cette fragmentation qui nous permet d'être dans l'absolu.
Vous avez écouté Denetem Touambona, Carole Chessé-Ayun, Myriam Mindou et Florence Boyer. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier voyage initiatique autour du lianage et des pratiques d'alliance et d'improvisation réactivant les mémoires et puissances des réexistences des mondes afro-diasporiques. La sagesse des liens nous part du lianage, un terme créole employé afin de désigner les croisements des matières innovantes qui vont donner naissance à l'enchevêtrement d'une cosmopoétique puissante et d'un échange politico-créateur, d'un arrachement du sol. Vous avez écouté ces premiers chapitres en partenariat avec Marie-Yemta Moussanag, auteure réalisatrice des Afrotopiques, le Centre international d'art et du paysage, avec Marine Frolinger. Je vous propose un deuxième chapitre où vous allez continuer à découvrir cet enchevêtrement d'univers de l'afro-diasporique. Une réalisation de Nini Villegas pour Radio Vassivière dans le cadre des Sons de Lille.